Très bon réveil, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Leurs différences sont désormais assumées. Les dirigeants français et allemands s'en font écho par médias interposés à 10 jours des européennes. Emmanuel Macron répond à Angela Merkel, verbatim et analyse dans un instant.
Nous reviendrons sur les débats et meetings d'hier soir. Pour justement les élections européennes, la gauche invite des grandes figures du PS. Ce n'est pas un appel à l'aide, dit le patron du parti.
Un débat également hier entre les candidats à la présidence de la Commission européenne. Stéphane Robert y reviendra dans le billet politique après ce journal. Avant cela, compte rendu d'audience du troisième jour du procès de Patrick Balkany, il a pu s'exprimer à la barre hier.
Et au Soudan, après de nouvelles violences à Khartoum, les pourparlers entre militaires et civils sont suspendus. Pendant ce temps, la crise économique pèse sur la population. Reportage à suivre.
Enfin, nous irons sur la côte est du Mexique. Elle est envahie de sargasses, ces algues qui prolifèrent à cause du réchauffement climatique. C'est un entretien qui donne la mesure du fossé de plus en plus large entre la France et l'Allemagne. Un fossé qui s'est creusé en silence au fil des mois, des années. Voilà que la chancelière Angela Merkel le décrit publiquement. Dans une interview diffusée par plusieurs quotidiens européens, dont le Süddeutsche Zeitung et Le Monde, la chancelière évoque ses différences avec le président français Audrey Tison.
Il y a des différences de mentalité, des discontinuités. Oui, nous avons des luttes, déclare Angela Merkel. Les conflits, on les avait déjà ressentis, mais c'est la première fois que la chancelière les verbalise. Et cela intervient à 10 jours des élections européennes. Emmanuel Macron lui a emboîté le pas hier soir. Nous devons accepter des désaccords momentanés, ne pas être totalement d'accord sur tout pour construire un compromis. Ils ne sont pas d'accord sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, pas d'accord sur le Brexit et les multiples reports accordés au Royaume-Uni, pas d'accord sur l'idée d'un budget propre pour la zone euro. Une source proche de l'Élysée l'avouait récemment, nous n'avons pas le même logiciel, la France est davantage sur une logique de puissance. Mais la chancelière nuance dans son interview, nous trouvons toujours un milieu et nous sommes sur la même longueur d'onde sur les questions clés, citant parmi les énormes progrès, les projets communs de chars et d'avions de combat.
Alors interrogé lors d'une conférence de presse à Paris hier, Emmanuel Macron a répondu qu'il assumait une confrontation féconde avec Angela Merkel dans le but, souligne-t-il, de bâtir un compromis. Force est toutefois de constater que les compromis sont difficiles à trouver ces derniers temps. Français comme Allemands assument leurs différences. C'est bien cela la nouveauté, selon Claire Demesmet, elle est politologue, directrice du programme franco-allemand à l'Institut allemand de politique étrangère.
On a eu ces derniers mois, notamment avec le traité d'Aix-la-Chapelle, le traité d'amitié franco-allemand fin janvier, une amitié franco-allemande qui était mise en scène jusque dans les moindres détails, avec tous les symboles à l'appui. Aujourd'hui, on a des différences sur plusieurs sujets, qu'il s'agisse du Brexit, qu'il s'agisse des relations commerciales avec les États-Unis, qui sont maintenant dites. On n'essaie plus ni d'un côté ni de l'autre, on n'essaie plus de cacher ces différences. On est à quelques semaines des élections européennes. Angela Merkel et Emmanuel Macron ne veulent pas la même chose. La liste soutenue par Emmanuel Macron vient défier la liste des conservateurs pour laquelle est Angela Merkel. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier, ça joue un vrai rôle.
Et cet affrontement franco-allemand s'inscrit d'ailleurs dans la campagne pour les européennes. Il était visible par exemple hier lors d'un débat télévisé. Nathalie Loiseau face à Jordan Bardella, la tête de liste de la majorité face à celle du Rassemblement National qui est légèrement en tête dans les sondages. Nathalie Loiseau d'abord, elle a évoqué la relation franco-allemande, elle reconnaît des hauts et des bas.
Nous faisons ensemble un avion de combat, un char de combat. Nous nous sommes mis d'accord sur le budget de la zone euro. L'Allemagne vient de rejoindre l'initiative qui avait été lancée la semaine dernière par le président de la République sur le climat. Donc à chaque fois que nous pouvons avancer ensemble, c'est pour le bien de l'Union européenne. Mais il y a aussi un rythme qui est celui de l'Allemagne, qui est celui d'un gouvernement de coalition, qui est celui d'une chancelière qui a déjà annoncé que c'était son dernier mandat. C'est un rythme plus lent qui n'est peut-être pas suffisant pour répondre aux défis d'aujourd'hui.
Et face à elle, Jordan Bardella du Rassemblement National, lui, ne retient qu'une chose. Emmanuel Macron, dit-il, est de plus en plus seul sur la scène européenne.
Jamais la France n'a été aussi isolée sur la scène européenne. Emmanuel Macron s'est fâché avec les pays de l'Est, avec la Hongrie, avec la Pologne, qu'il a traité d'esprit fou. Il s'est fâché avec les Italiens. On a assisté il y a quelques semaines au rappel de l'ambassadeur, ce qui est quasiment inédit et ce qui est un petit peu l'échelle de tension numéro un dans la politique diplomatique. Il s'est fâché avec l'Allemagne. Je crois qu'il y a un véritable choix qui se pose aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire soit on va plus loin dans cette construction européenne fédérale, soit on décide d'entendre les peuples et de retrouver le pouvoir et la liberté qui a été volée aux nations européennes par une technocratie bruxelloise que les peuples rejettent aujourd'hui.
Voilà des propos extraits du débat de BFM Télé pour France Culture par Rosalie Lafarge. Et quand certains débattent face caméra, d'autres s'affichaient hier dans des réunions publiques. Ainsi, l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, était à Rouen. Elle y a apporté son soutien au candidat aux européennes, Raphaël Glucksmann. Ce soir, c'est l'ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui sera aux côtés de la tête de liste du Parti socialiste et de place publique. Il ne faut pour autant pas y voir un appel à l'aide. Écoutez à ce propos le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, visiblement agacé par le sujet.
Mais je n'appelle personne à l'aide. C'est quoi cette histoire? On se bat pour ce qu'on croit. Est-ce qu'on fera 3, 4, 5, 10, 15, 20? C'est pas moi qui le décide. Et c'est pas François Hollande et c'est pas Christiane Taubira. Ce sont les électeurs. Les électeurs, ils ont envie de savoir ce qu'on propose. Et la seule question que vous me posez à chaque fois que vous me rencontrez, c'est de savoir s'il y a tel ou tel éléphant qui est bien présent ou pas. Donc moi, je vous dis, effectivement, ces gens-là, toutes ces personnalités qui sont des repères dans la vie publique, c'est bien qu'ils soient là et c'est bien qu'ils s'expriment et qu'ils disent pourquoi ils ont envie avec nous d'Europe sociale et écologique. Mais ne rendez pas ce débat aussi... Enfin, on a 10 jours pour essayer d'expliquer ce qu'on veut faire. Ne résumez pas le débat à un débat médiocre qui est le débat politicien duquel on crève. Moi, je ne veux pas crever avec ce débat-là.
Olivier Faure au micro de France Culture de Steven Gouaillet à Rouen hier soir. Rouen où seront ce soir les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry et François Ruffin pour prouver leur union. Au chapitre économique maintenant, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Dans le nord à Saint-Saulve, la scierie d'Ascoval est bel et bien reprise par le sidérurgiste britannique British Steel. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire le confirmait hier. Les 268 salariés seraient donc sauvés. Un peu plus au sud, en revanche, dans la Somme et le Calvados, les deux sucreries de l'allemand Südzucker vont fermer. Le propriétaire refuse que les sites soient repris en coopératif par les salariés. Près de 130 postes seront supprimés. En bref, encore le taux de chômage au premier trimestre 2019, il est en léger recul de 0,1 point selon l'INSEE ce matin. Il s'établit donc à 8,7% en France, soit son plus bas niveau depuis 2009. Patrick Balkany accuse le fisc de surévaluer son patrimoine. Avec son épouse Isabelle Balkany, il est soupçonné d'avoir dissimulé un patrimoine d'au moins 13 millions d'euros à l'administration fiscale. Et au troisième jour de son procès, le maire de Levallois-Perret a invoqué hier son héritage familial pour justifier son train de vie fastueux. Il a eu la parole tout l'après-midi, Florence Turm.
Il parle avec la même fierté de sa famille, un père résistant et déporté, homme de valeur. « Ma mère, ajoute-t-il, était une sainte, mon épouse une femme extraordinaire, adulée à Levallois. » Au passage, il souligne le contraste avec l'image véhiculée dans les médias. « Je remarque que les habitants de ma bonne ville en ont une tout autre de moi. » Depuis le début du procès, les bancs de la salle d'audience sont remplis de ses soutiens. Il faut dire que j'ai fait beaucoup pour la sécurité, poursuit Patrick Balkany. Je suis le premier à avoir créé une police municipale, des caméras de surveillance, avec de belles écoles, un très beau lycée, des logements sociaux qui ne sont pas des cages à poules. Il égrène ses réalisations, tout comme il liste la provenance de sa fortune, des espèces et des lingots d'or, la manie de mon père, la vente des appartements, des actions de société. On a toujours bien vécu, explique-t-il, mais sans jamais avoir eu besoin de mettre les mains dans le cambouis et je n'ai jamais été corrompu par personne. La fortune familiale pour expliquer son niveau de vie et les multiples dépenses en espèces, les méthodes de l'administration pour démonter la fraude fiscale dont on l'accuse. Patrick Balkany reproche au fisc d'avoir surévalué son moulin de Giverny et la villa Pamplemousse de Saint-Martin. À plusieurs reprises, il se retourne vers le représentant de l'État. Je n'ai pas un amour fou pour cette administration, lâche-t-il, avec quelques chiffres encore à l'appui. Je lui ai versé 1,5 million d'euros et sur les 3500 euros de mon indemnité de maire, elle me prend encore une grande partie.
Florence Turm au tribunal correctionnel de Paris.
8h09 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Au Soudan, le conseil militaire de transition suspend ses discussions avec l'opposition.
Oui, pendant 72 heures au moins, le temps, dit son responsable, que les barrages de manifestants soient levés à Khartoum, dans la capitale. Hier, malgré l'avancée des négociations, des violences y ont éclaté. Violences et colère attisées notamment par la crise économique que traverse le Soudan. Pénurie, hausse de prix. Notre envoyé spécial Martin Rousse en est aperçu à Omdurman. C'est dans cette banlieue pauvre de l'ouest de Khartoum qu'est partie la contestation il y a un mois contre le président Omar El-Béchir. Et depuis, rien n'a changé.
À perte de vue, les étals sont fournis en légumes. Au centre d'Umdurman, banlieue surpeuplée, aux maisons et aux rues en terre ocre, ce marché est le plus grand du pays, mais les denrées qui s'y trouvent sont désormais trop chères pour nombre d'habitants.
Je n'achète que des choses simples comme de la salade, mais jamais de viande. C'est dur, je te jure, on a faim. Je n'arrive pas à les nourrir.
À proximité du marché, l'entrée d'une station essence est bloquée, en attente d'approvisionnement. Voitures, bus et tuk-tuk sont à l'arrêt. Ce chauffeur de taxi espère pouvoir faire le plein de carburant.
Ça fait à peu près une heure que j'attends. Parfois il y a de l'essence, parfois il n'y en a pas. Mais je suis obligé d'attendre si je veux travailler.
Comme l'essence, le pain est rationné. Un groupe d'hommes attend devant la boulangerie Dayman. À 23 ans, il passe en moyenne 10 heures par jour dans la chaleur du fourneau et soutient à distance les révolutionnaires.
Je suis ce qu'il se passe sur Facebook. La plupart des jeunes là-bas sont au chômage et c'est pour cela qu'ils cherchent tous à quitter le pays. La cherté de la vie nous cause beaucoup de problèmes. Tout ce que j'espère, c'est une baisse des prix.
Le triplement du prix du pain en décembre dernier a été l'étincelle de cette révolution. L'ex-président Omar el-Béchir est tombé, mais la crise économique empoisonne toujours le quotidien des Soudanais.
Martin Roux à l'ouest de Khartoum, au Soudan, pour France Culture. Des centaines de milliers de personnes, étudiants, enseignants, sont descendues dans les rues brésiliennes hier soir. Elles ont voulu défendre les universités du pays, menacées par d'importantes coupes budgétaires. Il s'agit du premier mouvement national de contestation contre le président d'extrême droite au Brésil, Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir en janvier dernier. Autre alerte, au Brésil encore, cette fois contre la déforestation grandissante. Le célèbre chef indien Raoni parcourt actuellement l'Europe pour sensibiliser sur ses pratiques anti-environnementales. Il sera reçu ce jeudi à l'Elysée par Emmanuel Macron. Raoni doit également rencontrer le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Un gigantesque nuage de pollution enveloppe depuis 5 jours Mexico, mégalopole entourée de montagnes. Cette pollution oblige les autorités mexicaines à fermer les écoles aujourd'hui et à suspendre tous les chantiers. La faute à une absence de vent et des températures élevées en ce moment. Le Mexique et la pollution encore, décidément. Au sud du pays cette fois, les plages de la péninsule du Yucatan sont recouvertes d'algues sargasses. Elles déferlent par tonnes avec l'augmentation des températures des eaux. La côte en est envahie, Emmanuel Steele.
Les plages de sable blanc et la mer turquoise, on n'en devine plus que les contours. Ces paysages typiques du Yucatan sont désormais recouverts d'une couche de sargasses. Couleur ocre, odeur fétide, cette algue qui se développe rapidement tapisse les plages les plus populaires des Caraïbes, comme Cancun, Playa del Carmen et Tulum. Les marées de sargasses devraient déferler durant plusieurs semaines encore. À ce rythme, les spécialistes estiment à 1 million de tonnes la quantité d'algues qui aura échoué sur les côtes mexicaines durant cette saison, soit 5 fois plus que l'an dernier. Les désagréments causés font craindre une désertion touristique massive et des pertes de plusieurs milliards de dollars pour ce secteur. Le président Andrés Manuel López Obrador a envoyé des militaires nettoyer les plages, alors que les autorités locales et les groupes hôteliers installent des barrières marines pour contenir les algues au large des côtes. C'est la plus grande invasion de sargasses sur la côte du Yucatan depuis l'apparition de ce phénomène en 2011. Les scientifiques blâment le changement climatique. En effet, le réchauffement de la température des mers contribue à la prolifération de ces algues et aux modifications des courants qui les entraînent vers les Caraïbes.
Le groupe chinois Huawei exclut des échanges commerciaux aux États-Unis. En tout cas, Donald Trump a signé hier un décret en ce sens. Il interdit en fait aux entreprises américaines d'utiliser du matériel de télécommunication fabriqué par des étrangers présentant un risque pour la sécurité nationale. Et le groupe chinois Huawei est placé sur cette liste. Les États-Unis qui ont fait naître le western, c'est aujourd'hui devenu un genre, une certaine atmosphère. Antoine Guillot, bonjour.
Bonjour Clara.
Vous nous appelez ce matin de Cannes, où se déroule toujours le 72e Festival de cinéma international. Et vous avez vu hier, Antoine, justement, deux westerns.
En effet, Clara, dans une 72e édition qui s'annonce comme celle du retour des genres, après le film de zombies en ouverture, voici le western, revisité à la française et à la brésilienne. Le premier a valu à son auteur, Lajli, une ovation de 10 minutes hier soir, en projection de gala. Mais Les Misérables et la version longue du court-métrage homonyme qu'avait signé il y a 2 ans ce natif et toujours habitant de Montfermeil, une ville qu'il filme au long cours depuis les émeutes de 2005. Placé, comme son titre l'indique, sous les auspices de Victor Hugo, il n'y a ni mauvaise herbe ni mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Hugo qui avait d'ailleurs placé l'épisode de Cosette et des Thénardier précisément à Montfermeil. Le film est un western en ce qu'il suit une patrouille de cow-boys de la BAC, moyen pour le cinéaste d'arpenter les quartiers en déshérence et d'en montrer à la fois la diversité, les fractures et les tensions qui règne entre les différents clans. 25 ans après La Haine, Les Misérables a le mérite, lui, d'échapper au poncif du film de banlieue et surtout à son programme un rien didactique pour se clore en une magistrale scène d'assaut claustrophobique dans une cage d'escalier. On aura toutefois été beaucoup plus enthousiasmé sur le plan cinématographique par le second film présenté hier en compétition, Bacurau, des Brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles. Cette fois, on est du côté des Indiens, d'un petit village du Sertão, menacé de se retrouver littéralement rayé de la carte. Il rassemble toute une communauté admirablement filmée de tout ce que le président Bolsonaro conspue à longueur de tweets et renoue brillamment avec un genre qui fit les belles heures du cinéma brésilien, le film de Cangaceiros. Un climat de résistance et d'insurrection rassemble Les Misérables et Bacurau. La fièvre monte à El Croisette comme ailleurs.
Merci beaucoup Antoine Gignot, vous qui êtes les yeux et les oreilles de France Culture au Festival de Cannes. Nous vous retrouvons évidemment demain matin. Le temps de ce jeudi sera encore calme, mais sous un soleil moins généreux que ces derniers jours avec des nuages qui arrivent. Il fait ce matin 14 degrés à Lille et Lyon, 15 à Paris, Nantes, Périgueux, 17 degrés à Marseille, 19 à Bayonne.
Et à Cannes, non je dis ça parce qu'on
et à Cannes, il ne pleut
avec
plus.
Les matins demain. Eh ben voilà, c'est
vous
déjà
chance,
une bonne
Guillaume.
Nouvelle. Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.